Notre Dieu, notre Père, merci. Merci encore une fois de vouloir nous adresser la parole ce matin d'une manière tout particulière, par la prédication de celle-ci. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir à ces vives eaux, aux eaux de ta parole, pour en être abreuvés, en être nourris pour aujourd'hui, pour cette semaine. Et nous te demandons, Seigneur, que tu veuilles toi-même ouvrir les oreilles de nos cœurs, les oreilles de notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, être fortifiés, être encouragés, peut-être repris, sûrement repris. Et que tous ensemble, alors, en Église, nous puissions mener une vie qui t'honore, dans laquelle ton nom soit élevé. Seigneur, reçois toute la louange, toute notre adoration, toute la reconnaissance de nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous ouvrons nos Bibles à Hébreux 11, 11e chapitre d'Hébreux. Lisons les trois premiers versets et on ira jusqu'au verset 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, alors ce qui alimente notre foi, ce qui en fait l'objet et qui la rend solide, ce qui la rend vivante et persévérante, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les promesses de Dieu. D'abord, celles qui concernent son amour indéfectible pour nous, amour qu'il nous manifeste continuellement en Jésus-Christ, que nous expérimentons avant tout par la révélation que nous en donne le Saint-Esprit. Donc d'abord, les promesses qui concernent son amour, et ensuite, les promesses qui concernent la vie à venir, renouvellement de toutes choses, quand toute l'Église, quand tous les rachetés seront réunis autour du Seigneur Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste. Un simple exemple tiré de la Bible qui nous montre que c'est bel et bien, que c'est bel et bien le cas, qu'il nous faut avoir en vue la vie à venir, c'est ce que souligne par exemple Paul dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, quand il dit que nous ne perdons pas courage, parce que alors même que notre homme extérieur se détruit, la vieillesse, les infirmités de toutes sortes, alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On ne peut pas le mesurer, tellement c'est énorme, ce poids de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Vous voyez, les invisibles concernent les promesses du royaume qui vient. Et nous avons déjà vu, en particulier dans les deux chapitres précédents, 9 et 10, que par la foi, nous avons déjà accès, par Jésus-Christ, au trône de la majesté divine. Par la foi, nous entrons déjà en Christ dans le sanctuaire céleste. Bien que nous vivions toujours sur la terre et que nous devions ici-bas nous exercer à donner le meilleur témoignage possible, en particulier sous deux aspects qui se complètent, qui ne vont pas l'un sans l'autre. Premièrement, en menant une vie sainte. Et deuxièmement, en nous aimant les uns les autres. Non, c'est vraiment ça. Ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. L'amour sans la sainteté n'est pas le vrai amour. C'est de l'hypocrisie. Et la sainteté sans l'amour n'est pas la vraie sainteté non plus. C'est seulement de la mécanique, de la robotique, mais pas de la sainteté. Pour nous assurer que nous ne faisons pas fausse route, notre amour et notre sainteté doivent être à l'image de notre saint modèle, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons à notre assurance. La foi que Dieu accorde à ses enfants bien-aimés n'est pas seulement une assurance, c'est une ferme assurance. Être assuré de quelque chose, c'est en avoir la certitude, la conviction. Mais apparemment, pour l'auteur de notre épître, et donc en fait pour le Saint-Esprit, la foi est encore plus qu'une assurance, ce qui n'était déjà pas mal. Mais non, il ajoute que l'assurance de celui qui est animé d'une foi qui est agréable à Dieu, que cette assurance-là est ferme. C'est d'ailleurs bien, si vous vous en souvenez, l'enseignement qu'il donne à ces chrétiens hébreux qui sont en train d'hésiter, de se demander s'ils ne veulent pas retourner aux pratiques judaïques de la loi, tellement les Juifs font pression sur eux, tellement ils endurent parfois la persécution. Donc, une assurance qui serait toute nue, sans qu'on parle de fermeté, une assurance comme ça pourrait vaciller, pourrait menacer de s'écrouler, tourner sa veste, comme ces Hébreux. En revanche, une assurance ferme ne bronche pas. Elle est invincible, inébranlable. Et c'est bien ce genre de foi-là que la Bible tout entière nous exhorte à entretenir, à travailler. C'est aussi celle qui va nous être dépeinte avec cette galerie des héros de la foi. Comment la Bible nous exhorte-t-elle à entretenir la fermeté de notre foi ? Je soulignerai ici simplement 5 points. La Bible nous exhorte à entretenir la fermeté de notre foi, 1, en étant attentif aux paroles que Dieu nous adresse. Parce que Dieu veut nous dire des choses. Il nous parle de toutes sortes de manières, mais premièrement, par sa parole écrite. 2, la Bible nous exhorte à entretenir la fermeté de notre foi en nous attachant à ses promesses, comme on l'a dit. Attendre avec une pleine confiance leur réalisation. 3, nous entretenons notre fermeté dans la foi en cultivant une relation intime avec le Seigneur. Par la prière, mais pas seulement. C'est aussi possible de le faire en silence. Comme deux personnes qui s'aiment ont simplement de la joie d'être ensemble. 4, en conformant nos vies à sa volonté. Comme toujours, l'obéissance est inséparable de la foi. C'est dans l'obéissance que nous grandissons dans notre connaissance de Dieu. Et ce cinquième point ne paraît de prime abord pas essentiel, pourtant il joue un rôle très important dans la fermeté de notre foi. Il s'agit de nos modèles. Imiter ceux qui nous ont précédés, mais sûrement aussi imiter des frères et des sœurs qui vivent aujourd'hui autour de nous et qui nous encouragent par leur exemple. Nous ne les imitons pas par devoir, mais parce que nous reconnaissons en eux des maîtres, des références. Et ce qu'ils vivent, ou ce qu'ils ont vécu, ou ceux qui sont déjà morts, leur foi obéissante en toutes circonstances, leur pleine confiance dans les promesses de Dieu, leur fermeté, leur courage à toute épreuve. Tout ça nous donne du courage à nous aussi. Courage de ne pas craindre les hommes, ni le monde, ni le diable, mais de faire confiance à notre bon Père Céleste. 5 points. C'est 2 de plus que la dernière fois. Vous vous rappelez ? CCP. Connaissance, conséquence, persévérance. Vivre en conséquence de ma connaissance de Dieu, de sa volonté, de ses promesses. Et persévérer, alors, avec assurance, jusqu'à leur pleine réalisation. La pleine réalisation des promesses de Dieu. On avait vu qu'on ne pouvait pas prétendre au salut en Christ sans le CCP. On ne peut pas être agréable à Dieu en dehors du CCP. Connaissance, conséquence, persévérance. Les 2 points que j'ai ajoutés aujourd'hui, pour faire 5, pas 3, c'est cette question de notre fermeté dans notre assurance, c'est-à-dire notre fermeté dans la foi. C'est d'abord l'attention, être attentif à ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il veut nous montrer. Et certainement que cette attention-là se développe d'autant mieux que nous prenons soin à entretenir cette communion avec le Seigneur. Et puis le 2e point que j'ai ajouté, c'est l'imitation des modèles que Dieu nous donne, modèles actuels ou anciens, et Hébreux 11, justement, nous en donne toute une liste. La foi est une assurance des choses qu'on espère et aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est sans aucun doute à cette deuxième partie, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'il nous faut attacher le troisième verset. Ce troisième verset qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En préparant cette prédication, d'abord, ça m'a paru un peu étonnant que dans le premier exemple que l'auteur nous donne ici, dans son premier exemple, l'objet de la foi n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, dont il nous a tellement parlé dans les chapitres précédents. Non, ce n'est pas non plus l'Évangile, ou quoi que ce soit qui concerne directement notre salut. Mais alors de quoi s'agit-il ? De la création de tout l'univers. Ça peut nous étonner au premier abord, mais finalement, ça s'explique très bien. C'est que la foi du chrétien, la foi de l'enfant de Dieu, concerne bien plus que la question du salut. En fait, tout ce qui a trait au salut, à l'évangile, s'inscrit dans un espace bien plus vaste que notre petite personne ou même que l'Église. Même si l'Église est en premier plan dans la question du salut, c'est évident. Et donc, ce que je comprends ici, c'est la chose suivante. D'abord, il ne saurait être question de foi en Jésus-Christ, d'espérance chrétienne, de notre assurance dans les promesses de Dieu. Il ne saurait être question de tout ça en étant déconnecté des réalités du monde créé. C'est parce que Dieu a créé le monde, qu'il nous a créé nous-mêmes, qu'il peut être question aujourd'hui de la nécessité de la foi pour être sauvé. Rappelons-nous tout simplement le schéma théologique traditionnel, création, chute, rédemption. Création, chute, rédemption. Ce schéma qui signifie que Dieu a tout créé, il a même créé l'homme à son image. Malheureusement, le premier homme, Adam, chef-d'œuvre de la création, n'est hélas pas resté dans son état d'innocence originelle, parce que voilà qu'il a entraîné toute l'humanité dans le péché. C'est donc la chute. Création, chute. Mais heureusement, cet événement proprement ahurissant, donc la chute, n'a pas pris Dieu au dépourvu. Non, puisque dans son plan éternel, son Fils, éternel lui aussi, son Fils, en prenant une forme humaine, viendra prendre sur lui le péché de tous ceux qui croient en son nom. Et ça, c'est donc la rédemption. Création, chute, rédemption. C'est-à-dire le rachat, puisque c'est ce que signifie ce mot de rédemption. C'est-à-dire que ceux que Dieu sauve en Jésus-Christ, il les préserve jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la gloire du ciel. Romains 8, 30 dit que ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais donc, je voulais en venir, en parlant de la création, de la chute, de la rédemption. C'est qu'il ne saurait être question de parler du salut en Jésus-Christ sans évoquer la création du monde. sans évoquer la création de l'homme à l'image de Dieu. Parce que justement, c'est parce que Dieu a tout créé, qu'il nous a nous-mêmes créés, qu'il n'a pas laissé au péché et au diable et aux anges déchus, il ne leur a pas laissé le dernier mot. Mais il s'agissait, et il s'agit encore aujourd'hui dans le dessein de Dieu, de réparer et de réhabiliter l'homme. L'homme pris ici dans un sens tout à fait général. L'homme que Adam et Ève avaient entraîné avec eux dans la dépravation du péché. Donc l'importance de la création, elle est là. Et c'est par la foi, alors, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu et non pas par un hypothétique Big Bang qui oblige à conclure que notre univers finira un jour dans des milliards et des milliards d'années. Sur Internet, on trouve de tout là-dessus. Hein. On trouve 100 milliards d'années, peut-être, mais aussi peut-être des milliards de milliards d'années. Mais la fin viendra, c'est sûr. Mais pas comme la Bible dit. La fin viendrait plus ou moins de la même manière que ça a commencé par le Big Bang. Tout ça étant bien sûr le fruit du plus pur hasard, d'une énergie fabuleuse, fabuleuse, contenue dans presque rien, quelque chose de plus petit qu'un atome, vous vous rendez compte ? D'où on sort ? Une énergie mise en mouvement par on ne sait quel prodige. Chers amis, la science ne pourra jamais nous donner la preuve de la création du monde par Dieu en 6 jours, ni même d'ailleurs la preuve du contraire. Et j'ajouterais, même si ces jours-là, ces jours de l'époque, n'avaient pas la même durée que ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est mystérieux. C'est de toute façon des jours de 24 heures, mais est-ce que les heures de l'époque avaient la même durée qu'aujourd'hui ? Ça, nous ne le savons pas. Non, la science ne pourra jamais nous en apporter la preuve, tout simplement, parce que le Saint-Esprit affirme ici, par la plume de l'auteur, qu'il est nécessaire d'avoir la foi pour reconnaître ces choses. Ou encore, que ce que nous en dit la parole de Dieu, la Bible, est amplement suffisant pour être informé correctement de la chose. Je n'ai pas dit exhaustivement, j'ai dit correctement. Nous demandons à Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qu'il nous accorde d'avoir la foi en toute sa parole, et non pas seulement en ce qui nous arrange ou ce qui correspond à nos sensibilités ou nos dadas. Que nous n'ayons pas seulement la foi dans l'Évangile, mais dans toute la révélation que le Saint-Esprit a eu bien soin de préserver jusqu'à aujourd'hui et qu'il préservera jusqu'à ce que nous voyons de nos propres yeux ce que nous avons cru. Et maintenant, sans plus attendre, nous entrons dans le conservatoire, dans la galerie où sont exposés les héros de la foi. Le Saint-Esprit est notre guide. Tous ces personnages ne sont pas morts. Ou plutôt, oui, ils sont morts physiquement, à part un seul, Enoch, mais ils sont en attente de la résurrection et ils vivent en esprit, en Jésus-Christ. Dans cette galerie de héros, ceux qui sont nommés ou précisément désignés ne sont pas très nombreux. 18, en fait. Bon, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire 16 avec leur nom, plus le père et la mère de Moïse, qui ne sont pas nommés, mais qui sont juste désignés comme tels. Le premier de la liste, c'est Abel, verset 4. Adam et Ève, les parents, ne sont pas nommés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, que nous ne les connaîtrons pas un jour. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, le Saint-Esprit ne les a pas jugés dignes de figurer dans cette galerie, ce que nous comprenons finalement assez bien. Mais donc, les enfants d'Adam et Ève, et avec les autres noms qui vont suivre, nous découvrons que c'est de tout temps, depuis toujours, que l'unique moyen de se rendre Dieu propice, l'unique moyen d'être agréable à Dieu, ça a été la foi. Ça a été la foi. Une entière confiance en Dieu qui conduit à une attitude et à des actes concrets qui plaisent à l'Éternel. La mise en conformité de nos vies à sa volonté, en fait. On avait vu ça dans notre étude du livre de la Genèse, en particulier avec la vie d'Abraham, le père des croyants. Mais on avait vu aussi quelque chose d'important, c'est que ceux qui plaisent à Dieu par le moyen d'une foi authentique font partie de la lignée de la promesse, de la lignée de ceux qui verront un jour et qui jouiront de la réalisation des promesses de Dieu. Et que donc, si nous sommes habités par la foi qui sauve, aujourd'hui comme au tout début, par exemple au temps d'Abel, c'est tout simplement une pure grâce de notre Dieu. La foi n'est pas une œuvre méritoire, mais une grâce pour laquelle nous sommes entièrement redevables à Dieu, à notre bon Père céleste qui nous l'a accordée. Donc maintenant, Abel, c'est par la foi qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère, Cain. Et l'Écriture nous dit ici que c'est à cause de sa foi qu'il a été déclaré juste. Déclaré, n'est-ce pas? Parce qu'il restait un homme pécheur. Il restait un homme capable de déplaire à Dieu. Et la seule condition pour qu'il puisse plaire à Dieu, c'était la foi. Mais à cause de la foi, à cause de sa foi, l'Éternel a fait entrer Abel dans l'assemblée des justes. Il a approuvé l'offrande d'Abel, au contraire de Cain, parce qu'il avait foi en lui. Il avait confiance en Dieu. Conscience de dépendre de Dieu. Et en conséquence, puisqu'il avait conscience de dépendre de Dieu, il désirait lui plaire. C'est bien ça la foi, non? On peut juste relire le texte de Genèse 4. Genèse 4, les 8 premiers versets. Genèse 4, premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une d'offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce qui est intéressant, si on considère ce passage de Genèse 4 à la lumière de celui de notre texte des Hébreux, c'est que nous découvrons clairement, avec le texte de l'Épître aux Hébreux, nous découvrons pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. C'est qu'Abel avait la foi, comme on l'a déjà dit. Tandis que nous voyons Caïn, dans le texte de la Genèse, nous voyons Caïn être au contraire irrité par la souveraineté de Dieu qui s'est montrée favorable envers Abel. D'un côté, et c'est ce qu'il nous faut retenir ici, d'un côté, foi et soumission, Abel, de l'autre, incrédulité, révolte, Caïn. On peut imaginer Caïn en train de faire son offrande à Dieu avec un esprit pharisien, juste pour se faire voir, bien voir, pour obtenir des bons points, comme une œuvre méritoire. Parce que il ne semble vraiment pas que c'est l'offrande proprement dite ici qui fait la différence entre les deux frères. Abel, c'est le premier-né du troupeau, et puis Caïn, les fruits de la terre. Céréales, légumes, des fruits. Donc ça ne paraît pas du tout être ça le problème. Ce n'est pas la différence d'offrande. Mais c'est la confiance en Dieu et dans sa parole et la crainte de Dieu aussi. Nous voyons dans le texte de la Genèse, en particulier dans la réponse que Caïn fait à Dieu après avoir tué son frère au verset 9, que Caïn était totalement dépourvu de cette crainte salutaire. Totalement. Donc la différence entre les deux frères se situe plutôt au niveau de leur attitude respective, face à Dieu, et notamment leur attitude de foi. Dans la Bible, la vie d'Abel n'aura duré que 8 versets. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que, bien que mort, à cause de sa foi, il parle encore. Et c'est vrai, n'est-ce pas, que la foi d'Abel a quelque chose à nous dire, encore à nous, au XXIe siècle. Versets 5 et 6, nous arrivons devant le deuxième personnage de notre galerie. Il s'agit d'Enoch. Qui est Enoch ?
Fils de Caïn.
C'est un des patriarches, c'est-à-dire un des ancêtres de la lignée de la promesse, et en particulier du peuple d'Israël. Mais précisons, un des patriarches antédiluviens, donc d'avant le déluge. Il y a deux choses qui distinguent Enoch du reste des patriarches. D'abord, c'est qu'il n'est pas mort, puisque la Bible dit qu'il fut enlevé au ciel. Dieu le prit, comme on va le lire. Et la deuxième chose, et là c'est une distinction seulement d'avec les patriarches antédiluviens, donc d'avant le déluge, c'est qu'Enoch vécut sur la terre beaucoup moins de la moitié des années des autres. Mais lisons le texte de Genèse 5, versets 18 à 24. Il s'agit d'un extrait du livre de la postérité d'Adam. Ok, qu'il est dit en tête de chapitre de Genèse 5, livre de la postérité d'Adam de Seth à Noé. Donc, Jéred, voilà le père d'Enoch. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah, c'est l'autre nom de Mathusalem. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, pour la petite histoire, Enoch, comme je l'ai dit, a été le patriarche antédiluvien qui vécut sur la terre le moins longtemps. Son père, Jéred, mourut à l'âge de 962 ans, alors que Mathusalem, qui est justement connu pour son grand âge, mais finalement à peine plus que Jéred, Mathusalem, le premier-né de Enoch, vécut 969 ans. Donc c'est l'homme qui a jamais vécu. Il n'y a aucun autre homme qui a jamais vécu plus longtemps que Mathusalem, que Methuselah. Et puis on peut dire aussi que Enoch était l'arrière-grand-père de Noé. Et c'est une précision qui n'est pas dénuée d'intérêt. Vous allez voir pourquoi. En fait, ça nous aidera à comprendre qui était Enoch. D'abord, rappelons-nous que Hébreux 5 soulignait le fait qu'Enoch était un homme qui marchait avec Dieu. Et il se trouve qu'elle le dit aussi, que la Bible dit aussi ça de Noé. Et quand la Bible donne cette précision de marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Que veut dire le Saint-Esprit? Avez-vous l'impression, vous-même, de marcher avec Dieu? Quand on dit à quelqu'un qu'on veut marcher avec lui, qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'on est d'accord avec lui? Qu'on a une unité de pensée, une même vision, qu'on veut se diriger dans la même direction. Je vais marcher avec toi. Jacob et Ésaü, après leur rencontre émouvante et dramatique, vous vous souvenez, c'était le jour où ils s'étaient réconciliés. Jacob a-t-il pu marcher avec son frère? Ouais. C'est ce qu'il a bizarrement laissé entendre à Ésaü. Mais en fait, non. Jacob ne pouvait pas suivre son frère comme il le lui demandait. Pour Jacob, ce n'était pas possible de cohabiter avec Ésaü. Il n'était pas de la même lignée. Seul Jacob était enfant de la promesse. Tous les patriarches étaient de la lignée de la promesse. Et pourtant, il n'y en a que deux dont il est dit qu'ils marchaient avec Dieu. C'est donc sans doute que ces deux hommes ont été plus proches de l'Éternel que les autres, plus sensibles à sa présence et en accord avec soi et avec sa volonté. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous voyons très bien avec Noé, dont il est dit dans le même verset où il est écrit qu'il marchait avec Dieu, qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Et quel homme, en effet, quel homme a-t-il fallu qu'il soit pour donner le témoignage d'une vie intègre et juste dans un monde entièrement corrompu par le péché, où les hommes avaient rempli la terre de violence? un monde un peu semblable au nôtre, en fait. La persévérance de Noé dans la construction de l'arche, qui a duré plusieurs dizaines d'années, peut-être entre 60 et 80 ans, on ne sait pas, mais c'était un travail énorme. Cette persévérance montre elle aussi l'attachement de Noé pour son Dieu. Eh bien, c'est ce genre de personnage-là que devait être également Enoch. Retournons dans les Hébreux. Qu'est-il écrit à propos d'Enoch, justement ? Que c'est par la foi qu'il fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Parce qu'en fait, avant son enlèvement, avant que Dieu le retire du monde, il avait reçu le témoignage qu'il lui était agréable. Et alors, le verset suivant est très important parce que on le trouve ici dans son contexte, ce qui nous aide à comprendre ce qu'il peut signifier pour nous. Hébreux 11:6. Donc Enoch, avant qu'il soit enlevé, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, parce qu'il fréquentait régulièrement une église baptiste. Ou parce qu'il faisait son culte personnel sans faute tous les matins. Ou encore parce qu'il était très attaché à la saine doctrine et qu'il dénonçait toutes les erreurs qu'on pouvait trouver dans les églises. Il versait sa dîme fidèlement en y ajoutant même quelques pourcents, etc., etc. Toutes ces choses-là sont certainement correctes lorsqu'elles sont accomplies dans de bonnes dispositions. Mais la réponse de la Bible est beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. Enoch était-il agréable à Dieu parce qu'il faisait telle ou telle chose? Alors oui, sans doute que ce qu'il faisait plaisait à Dieu. Mais, si elle lui plaisait, c'est uniquement parce que son serviteur Enoch avait foi en lui. Il croyait en l'existence de Dieu et il croyait que ce Dieu-là, le seul vrai Dieu, était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, la traduction second porte un peu à confusion, je trouve, ou minimise ce que l'auteur a sans doute voulu dire. Il est écrit au milieu du verset 6, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Quelqu'un a une autre traduction que ça ? Même pas toi ?
Non ?
Tu as ça, toi ? Martin dit « oui. » Et justement, ce serait plus juste de dire « qu'il croit que Dieu est ». Vous savez, ça nous rappelle Moïse et le buisson ardent. Quand Moïse demande à l'Éternel, « Mais quel nom faudra-t-il que je donne au peuple d'Israël ?» Ils vont me demander, « Qui est le Dieu de leur père ?» Et voici la réponse de l'Éternel, verset 14 du chapitre 3 de l'Exode. « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, toi, Moïse. Tu leur diras ça. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Vous comprenez, dans notre texte d'Hébreu, il ne s'agit pas simplement d'une vague croyance en l'existence de Dieu. Parce que beaucoup de nos contemporains croient que Dieu existe. Et pourtant, ils ne lui sont pas du tout agréables. Pas du tout. Mais ils croient que Dieu existe. Ils le disent. En revanche, quand on croit que Dieu est, ça signifie qu'on en a la crainte. Parce que on connaît les attributs, la grandeur, la sainteté, la puissance, le règne de ce Dieu-là. On sait qu'il est la vie même. Et que s'il voulait, il pourrait ôter la nôtre sur le champ. Parce qu'il est, il tient nos destinées dans ses mains. On a affaire au seul vrai Dieu, et non pas à une idole, pas à un Dieu façonné à notre image,
un petit Dieu qu'on met dans sa poche.
Prêt à faire nos quatre volontés. Non, ça, ce n'est pas connaître Dieu. Et encore moins croire en lui. C'est un fantasme, un mirage, une mascarade qui attire la colère de Dieu sur celui qui se berce de telles illusions. Il fallait bien que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre pour que Abel, puis Hénoc, et ensuite tous les héros de la foi mentionnés dans ce chapitre soient déclarés justes pour avoir été agréables à Dieu. Parce que comment pouvait-il le connaître ? Et comment pouvait-il, par la foi, vivre une vie qui lui soit agréable ? Quand on pense, par exemple, au patriarche qui ne possédait aucune partie des Écritures. Vous voyez, comme la grâce de Dieu était à l'œuvre dès le début, elle l'est encore aujourd'hui dans le monde, et tout particulièrement dans l'Église, dans la famille de Dieu. Mais alors quel privilège nous avons, n'est-ce pas, d'être en possession, nous, des Écritures. Ô Seigneur, permets-nous d'en faire bon usage, afin que nous puissions être disciples d'Abel et d'Hénoc. Amen.